Laudetur Jesus Christus.
Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
Bonsoir à tous. Après 15 mois au Vatican, le pape reprend son bâton de pèlerin, de paix et d'espérance. Le Saint-Père se rendra demain en Irak pour 3 jours sur la terre d'Abraham, berceau du christianisme. Dans une vidéo publiée aujourd'hui, il se dit honoré de rencontrer une église martyr, éprouvée comme les autres par des années de guerre, puis objet avec d'autres de persécutions djihadistes. Le pape demande au Seigneur la consolation des cœurs, la guérison des blessures. Il souhaite encourager le peuple irakien à marcher ensemble sur les chemins de la paix. Je vous propose de retrouver tout de suite notre correspondante à Bagdad en Irak pour voir dans quel contexte le pape arrive sur place.
L'Irak se prépare dans un contexte sécuritaire et sanitaire tendu à recevoir sa sainteté, le pape François. Une visite historique très attendue par la communauté chrétienne, fragilisée par des années de terrorisme islamiste. Nouveau souffle, vecteur de paix, force insufflée aux chrétiens irakiens, ce voyage suscite de grands espoirs. Même si les violences redoublent d'intensité, notamment au nord de l'Irak, en particulier à la frontière syrienne, beaucoup en appellent un sursaut chrétien. Tout faire pour que les chrétiens soient mieux représentés au Parlement, que leurs décisions pèsent sur les affaires internes irakiennes. La violence se déchaîne de partout, mais nous devons tenir bon, assure une carmélite, désespérée à l'idée de voir l'Irak se vider de ses chrétiens. Pour le père Pio Scacha de l'église syriaque catholique qui se dit vivre en Irak comme dans un purgatoire, le message papal prend tout son sens. Il vient nous dire que nous devons porter notre croix, vivre dans ce pays aux côtés de nos frères, que c'est notre pays, assure le religieux. À Bagdad, Anne-Sophie Lemauve pour Radio Vatican.
Nous revenons sur le voyage apostolique du pape François et sur la présence chrétienne en Irak dans notre dossier en fin de journal. Le pape qui s'inquiétait hier de l'aspiration des Birmans, un pays qui l'invitait à rester sur le chemin de la démocratie. Hier, au moins 38 personnes ont perdu la vie, des attaques consternantes selon la commissaire de l'ONU pour les droits de l'homme qui appelle l'armée à cesser d'assassiner et d'emprisonner, ce sont ces mots les manifestants. En Birmanie, plusieurs rassemblements ont eu lieu à nouveau aujourd'hui, des militants pro-démocratie qui ont fait de Khyalsin, une jeune fille de 19 ans, tué par balle hier, un symbole. C'est un grand raout organisé chaque année à Pékin. Les députés de l'Assemblée nationale populaire se retrouvent ce vendredi pour leur session annuelle afin d'envisager les politiques de demain en Chine. Notre correspondant Philippe Dova revient sur les grandes lignes de leur plan.
Selon les grandes lignes du plan publié en novembre, la Chine devrait s'orienter vers une économie plus verte, plus innovante et moins dépendante du reste du monde. Plus verte avec une politique de réduction de l'empreinte carbone pour atteindre l'objectif fixé par le président Xi Jinping de zéro émission d'ici à 2060. Plus innovante pour plus d'indépendance, car ce plan sera le premier à consacrer un chapitre spécifique à la technologie et à encourager l'innovation. La Chine considère la technologie comme essentielle à sa volonté de modernisation et d'autosuffisance. Dans cet esprit d'autosuffisance, le gouvernement pourrait également dévoiler des réformes pour stimuler la consommation intérieure. Sur le plan politique, 2021 est un millésime exceptionnel pour le pays et le parti communiste au pouvoir. L'Empire du Milieu se prépare à célébrer avec faste en juillet le centenaire de la création du Parti communiste chinois. Mais avant de souffler les bougies, Xi Jinping a d'ores et déjà demandé aux membres du Politburo de créer des conditions sociales favorables à la construction d'un pays socialiste moderne. Moderne et à l'unisson, voilà pourquoi l'APN devrait modifier le système électoral de Hong Kong pour s'assurer que seuls les patriotes pro-Pékin sont au pouvoir dans l'ancienne colonie britannique. Hong Kong, Philippe Dova pour Radio Vatican.
Et c'est chose faite puisque l'agence Chine Nouvelle annonce ce soir que cette proposition sera étudiée comme un dernier coup porté à l'opposition du territoire semi-autonome. Et ce matin, à Hong Kong, la justice a décidé de maintenir en prison 32 des 47 militants pro-démocratie arrêtés dimanche dernier. Les 15 autres auraient pu être libérés sous caution si le parquet n'avait pas immédiatement fait appel. Ils passeront eux aussi les prochaines heures en détention. Tous sont accusés de subversion. Rupture d'approvisionnement dans les supermarchés d'Irlande du Nord, des grandes chaînes qui refusent de livrer leurs denrées dans la province et maintenant des groupes paramilitaires unionistes qui menacent de retirer, à tout jamais disent-ils, leur soutien à l'accord de paix de 98, dit du vendredi saint. Ils dénoncent les contrôles, l'instauration en somme d'une frontière entre leur province nord-irlandaise et le reste du Royaume-Uni, une séparation qu'ils jugent intolérable. Ce soir, Londres réfute avoir enfreint le traité de Brexit conclu avec l'Union européenne en prolongeant unilatéralement cette mesure spécifique à l'Irlande du Nord. Un million de nouveaux pauvres en Italie, la pandémie a fait plonger des milliers de familles sous le seuil de pauvreté, notamment dans le nord de la botte, même si le taux de pauvreté reste plus élevé au sud. C'est ce que révèle aujourd'hui un rapport de l'Istat, l'Institut National des Statistiques. Et la pandémie de Covid qui continue à sévir, reprise des cas d'infection en Europe selon l'Organisation Mondiale de la Santé. Aujourd'hui, après la Belgique, l'Allemagne et la Suède ont décidé d'étendre le vaccin AstraZeneca aux plus de 65 ans. Idem en France pour les personnes atteintes de comorbidité. Ce soir, Rome a décidé de bloquer l'exportation de vaccins AstraZeneca en Australie, une première dans l'UE. Au Tchad, face à la détérioration du climat sécuritaire, un climat non favorable à une élection transparente et libre, disent-ils, trois candidats de l'opposition se sont retirés de la course à la présidentielle au lendemain de la validation de leur candidature par la Cour suprême. Au final, le 11 avril prochain, cinq candidats affronteront le président sortant, Idriss Déby Itno, au pouvoir, lui, depuis 30 ans. Pas de preuve de bourrage des urnes au Ghana. La Cour suprême a rejeté tout à l'heure le recours déposé par l'opposant John Mahama contre le résultat de la présidentielle de dimanche, une élection remportée par le président sortant Nana Akufo-Addo. Retour sur le voyage du pape en Irak dans notre dossier, un déplacement historique, le premier d'un pape sur cette terre évangélisée par saint Thomas. Le Saint-Père, lors de ce pèlerinage sous le signe de la fraternité humaine, rencontrera les différentes communautés chrétiennes dont l'histoire dans le pays est marquée par les persécutions, la guerre, les attentats, la présence donc de djihadistes de l'État islamique qui a entraîné de nombreux départs. Le déclin significatif des chrétiens irakiens est lié à l'arrivée de Daesh en 2014, mais il débute en fait en 2003 avec l'invasion américaine dans le pays. L'analyse de Joseph Yacoub, il est professeur honoraire de l'Université catholique de Lyon, spécialiste des chrétiens d'Orient.
Cette présence américaine était une occupation. Jamais une occupation n'est acceptée par un peuple. Une occupation militaire qui s'est accompagnée de beaucoup d'exactions, de répressions, d'enlèvements, d'attaques contre des églises, d'assassinats d'évêques comme l'évêque Farajrah à Mossoul. Cette répression interne et cette persécution a entraîné un mouvement d'exode vers le Liban, où ils sont nombreux, vers la Jordanie.
Le véritable tournant a eu lieu en 2014 avec l'arrivée de l'État islamique. Il y a alors eu une véritable hémorragie des départs par centaines de milliers de chrétiens.
Un des tournants majeurs qui a été décisif, c'est juillet-août 2014 jusqu'en 2017. Et là, le pays a connu une hémorragie sans précédent de la chrétienté. Le pays était complètement déstabilisé et les attentats se sont multipliés. On estime à peu près que 60% de la population chrétienne, si ce n'est plus, a quitté l'Irak.
Aujourd'hui, dans un pays divisé, les chrétiens irakiens constituent-ils des communautés assurant la cohésion ?
Vous savez, les chrétiens d'Irak, ils n'ont jamais désespéré, même s'ils sont tombés tout au fond de l'abîme. Ils ont ce message chrétien qu'ils portent, qui est pour eux une grande source d'espérance et de dialogue avec les autres. Depuis 2003, depuis qu'on a adopté la nouvelle constitution irakienne, qui est une constitution confessionnelle, faussement fédérale, les églises ont toujours tendu la main et ont toujours proposé la notion de citoyenneté. On appartient au même pays, quelle que soit notre origine, notre tribu, notre clan, notre religion, et demander un traitement d'égalité. C'est une constante.
L'Irak est une terre qui a toujours été irriguée par le message chrétien. Que signifierait la disparition sur cette terre de ces communautés autochtones ?
Le christianisme irakien, il est indigène, autochtone et apostolique. Autrement dit, il est né sur cette terre. Il est même sur cette terre 7 siècles avant l'islam. C'est dire son historicité et son implication dans l'histoire du pays dès le départ. Et aujourd'hui, une disparition, ce serait un malheur à la fois pour les chrétiens, mais pour les Irakiens eux-mêmes. Parce que les Irakiens chrétiens ont participé à la création de ce pays avec les musulmans. Le lien entre les chrétiens d'Irak et le pays est un lien consubstantiel. Et beaucoup de musulmans irakiens, qu'ils soient chiites ou sunnites, reconnaissent cet apport de la chrétienté.
Interrogé par Hélène Détombe, Joseph Yacoub, professeur honoraire de l'Université catholique de Lyon, était ce soir notre invité. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain matin à 8h30 pour un nouveau tour du monde de l'actualité. Excellente soirée.